Nicaragua, violence et non-violence. Extrait d'une lettre écrite de Managua et datée du 5 juin 1984. Il faut que vous sachiez que les habitants de Jalapa en ont un peu assez de la présence des Américains de Witness for Peace qui sont là sans rien faire toute la journée. Un Suisse a relevé qu'à San Francisco, Chinandega, les Witness for Peace ont organisé une procession, ce qui a suscité des réactions au sein des paysans du genre « Mais à quoi servent-ils pour le Nicaragua? Ils ne font rien du tout concrètement. » En revanche, les Danois ont fait une expérience intéressante. De février à mai, 3 militants du comité de solidarité travaillaient dans une coopérative au nord de Jalapa, à la frontière, comme vigile pour la paix. En même temps, 4 personnes à Managua organisaient les tournées de 6 délégations de 15 jours chacune, de personnalités danoises. L'écho a été retentissant au Danemark et perçu très positivement au Nicaragua. C'est un exemple, une indication. Fin de l'extrait. L'idée d'intervention non violente pour la paix dans les zones de conflit n'est pas nouvelle. Comment venir à bout de l'injustice, de la répression brutale et de la violence guerrière? Comment intervenir dès aujourd'hui de manière non violente dans les régions de tensions aiguës? Quelle alternative pouvons-nous opposer au réarmement militaire et à l'intimidation? Le projet des brigades de paix internationales est une tentative de faire passer cette idée dans la réalité des faits. Des non-violents venant de différents pays et de diverses organisations pour la paix se sont rencontrés au Canada en 1981, puis en Hollande l'année suivante, afin d'élaborer des propositions d'intervention d'équipes internationales de volontaires non-violents dans des foyers de tensions aiguës tels que l'Amérique centrale, le Proche-Orient, Sri Lanka ou la Namibie. Ces équipes auraient pour objectif de déclencher un véritable processus de paix. Les brigades de paix internationales envisagent leur rôle dans un conflit comme celui d'une troisième force entre les parties qui s'affrontent. Elles doivent intervenir en tant que groupe international non partisan, créer des contacts et des liens entre les adversaires, fonctionner comme témoins, en rendant public les faits de manière impartiale, susciter des négociations et une conciliation, et parfois même s'interposer entre les parties comme tampon ou comme protection contre les représailles. À la mi-août 1983, le gouvernement du Nicaragua lança un appel pour une présence internationale immédiate à Jalapa, une ville à quelques kilomètres de la frontière hondurienne où les Contras, contre-révolutionnaires, soutenus par les États-Unis, espéraient établir une capitale provisoire. Ainsi fut fait. Le 17 septembre, une équipe de 10 personnes prenait position à Jalapa. Elle y resta 2 semaines, sans le moindre incident, malgré les risques considérables. Pendant ces 2 semaines, les attaques des Contras s'accrurent sérieusement dans tout le nord-est du pays, mais il n'y eut aucune attaque sur Jalapa même ou dans son voisinage, fait que les responsables nicaraguayens attribuèrent à la présence de la brigade. Avant l'arrivée de la brigade, des responsables de Brigade pour la paix internationale avaient pris des contacts personnels avec des représentants des rebelles nicaraguayens au Honduras, avec le ministre des Affaires étrangères du Honduras, avec le département d'État des USA, le secrétaire de l'ONU et le groupe de Cantadora, par l'intermédiaire de leur représentation à l'ONU, ainsi que par des lettres à leur ministère des Affaires étrangères. Pendant leur séjour à Jalapa, les membres de la brigade ont mis en place des vigiles de paix 2 fois par jour sur la place principale et dans les villages avoisinants, créé un jardin de paix, établi un réseau de radioamateurs appelé Radio Peace International, par lequel ils ont communiqué avec de nombreux pays. Tout acte concret qui démontre bien l'efficacité de l'action non violente dans les conflits internationaux. Le 22 janvier 1984, à Lucerne, décision a été prise d'envoyer une brigade suisse au Nicaragua, en novembre prochain. La situation risque d'être alors particulièrement explosive. Les élections présidentielles américaines seront passées, alors que se dérouleront les premières élections nicaraguayennes depuis la Révolution. Les brigades internationales pour la paix, donc la brigade suisse, cherchent des femmes et des hommes prêts à participer à une telle intervention. Les conditions, être majeur, jouir d'une parfaite santé physique et psychique, être prêt à s'autofinancer, avoir des connaissances d'espagnol ou au moins d'anglais. De plus, la tâche et la responsabilité assumées en vivant quelques semaines à la frontière du Nicaragua exigent une préparation intensive. Il est donc indispensable de participer aux cours de préparation qui comprendront notamment théorie et pratique du comportement fondamentalement non violent, dynamique de groupe, informations sur le passé et le présent des pays d'Amérique centrale afin de favoriser et d'approfondir la compréhension. Le départ est prévu pour le courant de novembre 1984. L'intervention devrait s'étendre sur 3 ou 4 semaines. La brigade suisse cherche également des femmes et des hommes prêts à entreprendre le travail d'appui avant le départ pour multiplier les contacts privés et officiels, trouver des personnalités de soutien et de l'argent complétant l'autofinancement. Pendant la mission, pour relayer les informations transmises par la brigade, prendre les décisions qui s'imposeront et les mener à bien. Au retour, enfin, pour aider à faire fructifier l'expérience des brigadistes, conférences de presse, exposés publics, etc. Adresse de contact, PBI, case postale 3, 1000, Lausanne 3.
Avec Pierre Sonderegger, physicien nucléaire. Vous parlez dans le cadre d'un café de la paix qui se réunit régulièrement d'un problème intéressant, celui de l'énergie nucléaire et notamment de la centrale de Crémalville. Alors, un petit point d'histoire tout d'abord. Le réacteur nucléaire tel quel, ça ne vient pas comme cela. Je veux dire, l'énergie nucléaire au service civil n'est pas venue du jour au lendemain. Alors, rappelez-nous en gros d'où vient cette transformation en énergie civile du nucléaire.
Bon, comme tout le monde sait plus ou moins, l'origine du nucléaire se situe juste avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était une aventure très militaire. Avec les deux bombes lâchées sur le Japon. Et avec, juste après la fin de la guerre, la mise en place du système de dissuasion et, entre autres, des vecteurs qui devaient pouvoir garder les missiles et leurs têtes nucléaires à l'abri des éventuelles défenses ennemies, donc du sous-marin. Et les sous-marins qui ont été développés pour porter les premiers missiles intercontinentaux était forcément nucléaire parce qu'il fallait qu'ils puissent rester sous l'eau pendant de très longues périodes pour ne pas être détectés. Et vu que le nucléaire permet de tirer autant d'énergie d'un gramme d'uranium comme vous tireriez normalement de une tonne, c'est-à-dire 1 million de fois de plus de pétrole, ça a été d'emblée considéré comme un combustible idéal pour faire un moteur plus gourmand en kilos pour un sous-marin de ce type. D'où le développement par les États-Unis, mais aussi par l'Union soviétique, de réacteurs spécifiques qui devaient alimenter les sous-marins, qui devaient donc être compacts et tenir dans le peu d'espace qu'il pouvait avoir. Quand cela a été fait, c'est à ce moment-là que la première conférence de l'atome pour la paix a été ouverte à Genève vers 1955, dont le but annoncé par le président Eisenhower était de mettre le nucléaire à la disposition de tout le monde et des usages pacifiques, et le but plus concret des industries américaines concernées était d'agrandir le moteur du sous-marin et d'en faire des réacteurs électrogènes. C'est ce qui a été fait, et d'ailleurs avec bonheur de leur part, puisque les filières françaises, suisses et autres qui avaient été développées dans un premier temps ont pratiquement toutes été sacrifiées en peu d'années à ce type de réacteur américain. Lequel, maintenant j'en viens, lequel inaugure une phase de nucléaire où il y a maintenant une séparation assez claire entre le nucléaire civil qui sert à faire de l'énergie pour les consommateurs et le nucléaire militaire qui s'occupe des bombes. La scission assez nette vient du fait que, comme tous les réacteurs américains à eau dite légère ou naturelle, font du plutonium, mais comme ils travaillent dans des cuves relativement petites, sous très haute pression, qu'il est difficile d'ouvrir et de décharger, il se trouve que le plutonium est irradié, l'irradiation a lieu pendant une année entière, et pendant cette année, il s'y fait dans les barreaux de combustible, non seulement du plutonium-239, qui est donc la matière fissile qui permet de... qui est le meilleur matériau pour faire des bombes, mais aussi le 240, lorsqu'il y a un autre neutron excédentaire qui est absorbé, etc.
Qui se pose tout de même, une fois que nous avons vu maintenant le passage de cette énergie créée au départ à des fins militaires, maintenant transformée à des fins civiles. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on crée, comme à Crémalville, un surgénérateur de cette dimension?
Le problème des réacteurs de type plus ou moins américain actuel est qu'ils tirent relativement peu profit de l'uranium, et le problème du nucléaire en général est que, de toute façon, il y a fort peu d'uranium fissile, c'est-à-dire directement utilisable comme combustible. Notamment, si on compare au pétrole, il y en a 3 ou 4 ou 5 fois moins, même si on tient compte de ce qu'on n'a pas encore découvert. Donc, il s'est posé un problème qui n'avait rien de militaire et qui était que, si jamais le nucléaire prenait l'ampleur qu'il était censé prendre pendant les époques optimistes, alors vers la fin du siècle, on se trouvait à court de uranium-235. Et on prévoyait une entrée sur le marché fracassante de gens qui auraient développé des machines spéciales qui permettent de faire à la fois de continuer à faire de l'électricité nucléaire et en même temps de valoriser l'uranium majoritaire, l'uranium-238, qui normalement ne sert pas directement à faire de l'énergie, et qui n'y sert que si on l'a déjà fertilisé en y injectant un neutron, et si on en a ainsi fait du plutonium-239. La variété de ces machines, dont la France en particulier s'est faite un peu le champion, s'appelle le surgénérateur. Le nom vient du fait qu'il brûle du plutonium, mais en même temps, il fabrique à partir de l'uranium pauvre, de l'uranium-238, plus de plutonium que celui qu'on y a mis dedans, qu'il est en train de brûler pour faire de l'énergie. On a dit que c'est la transformation de bois vert en bois sec, tout en brûlant en même temps le bois sec. Donc ces machines étaient conçues essentiellement pour prolonger d'un facteur 50 ou 100 la vie utile du nucléaire. De nos jours, cette finalité-là est un peu moins intéressante du fait que les programmes nucléaires se sont un peu effondrés un peu partout, sauf peut-être en France, et qu'actuellement, il y a beaucoup d'uranium excédentaire et il n'y a pas de problème de combustible pour de nombreuses années, décennies à venir. Et donc, l'inconvénient majeur de surgénérateur, qui est que le réacteur coûte plusieurs fois plus cher qu'un réacteur à eau légère, et que, par conséquent, le kilowattheure produit et vendu coûte encore, en gros, le double que le kilowattheure des réacteurs conventionnels, joue un peu en défaveur de cette technique, notamment chez les producteurs d'électricité, dont le principal souci est de vendre maintenant de l'électricité à un prix, de produire et de la vendre à un prix compétitif.
Alors, vous ai-je bien compris, est-ce que maintenant, depuis Crémalville, on pourra tirer tout de même, à part les fins civiles, donc produire de l'électricité et le vendre à un certain prix, également en tirer un certain profit militaire?
Alors, parmi les nombreuses questions qui, de temps à autre, qui prêtent à controverse dans le surgénérateur, il y a celle de l'imbrication avec le secteur militaire. J'ai tout à l'heure, nous avons effleuré la question des réacteurs actuels à eau légère qui sont peu prisés pour les applications militaires parce qu'ils produisent un plutonium peu pur et ils ont donc carrément conduit à une césure pendant laquelle nous connaissons une séparation relativement nette entre la production d'énergie dans un certain type de réacteur et la production de matière fissile de plutonium militaire dans d'autres types de réacteurs situés dans d'autres centres strictement utilisés par l'armée.
Donc on pourrait imaginer, pour être clair, que en même temps qu'on produit l'énergie à des fins civiles, on puisse l'utiliser à des fins militaires.
Voilà. Alors ce que nous n'avons pas encore dit, c'est que le plutonium brûlé dans le surgénérateur peut être et sera du plutonium sale au point de vue militaire. Sorti de l'usine de retraitement en général de La Hague à partir du combustible usé des réacteurs à eau légère, mais le plutonium produit en même temps dans ce même surgénérateur dans la couverture sera de qualité militaire, ce qui a d'ailleurs fait que des généraux de l'armée française ont dit à plusieurs reprises que ça serait la réserve dont la France tirerait ses futures matières fissiles militaires.
Seconde hypothèse.
Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples. D'une part, c'est un réacteur international dont le 49% des capitaux est aussi du combustible comme aidant et aussi des matières nucléaires qu'on en sortira, appartiennent à d'autres pays européens que la France. Il est aussi clair que pour des vendeurs d'électricité, il serait infiniment plus simple, plus clair et plus défendable d'avoir des objets à eux qui n'ont rien à voir avec les objets des militaires. Et c'est pour cela que les bruits selon lesquels le gouvernement français envisagerait de soumettre Superphénix, contrairement à Phénix, à un contrôle international et ainsi à assurer par une garantie internationale que le plutonium qu'on y brûle et qu'on y produit sera du plutonium civil, ces bruits sont intéressants. Il serait intéressant d'avoir un jour des confirmations officielles, soit dans un sens, soit dans l'autre.
Ce serait, si je ne m'abuse, l'Euratom qui se chargerait de ce contrôle.
Il en a été question, il en est question depuis longtemps, mais il n'y a jamais eu de confirmation officielle.
Une question encore, la CEA, qu'est-ce que c'est ?
C'est le CEA, c'est un des grands organismes français, Commissariat à l'énergie atomique, chargé au départ à la fois de promouvoir le nucléaire civil et le nucléaire militaire.
Alors, dans le cas de Grémalville, il est bien là, cet organisme, lui aussi?
Cet organisme est bien là et a d'ailleurs développé la filière des surgénérateurs depuis plusieurs décennies.
Alors, peut-on parler maintenant aussi du problème de financement, puisque nous avons posé maintenant les deux possibilités de l'utilisation de ce surgénérateur de Grémalville, donc Superphénix. Maintenant, parlons un peu du financement, effectivement. Une première partie, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, vous me l'avez dit tout à l'heure, 51% du projet est financé par EDF en France. Et puis, vous m'avez également parlé d'une chose intéressante, vous m'avez dit, il y a quand même quelques problèmes, quelques aberrations en Europe, notamment, de la manière de financer tout le programme nucléaire. Alors, j'aimerais que vous expliquiez un petit peu, et qu'à partir de l'exemple de Grémalville, vous voyez un petit peu cette aberration européenne face, par exemple, aux méthodes américaines.
Nous touchons à plusieurs problèmes. Je ne sais pas si le fait de construire un objet aussi hardi que le surgénérateur de Grémalville en coopération européenne soit en soi une aberration. C'est plutôt un partage des risques qui peut avoir son intérêt. Le problème étant, entre autres, que cette machine qui, dans certaines hypothèses, ouvre certaines perspectives d'avenir, est, dans le contexte actuel, tout simplement une machine beaucoup plus chère que d'autres pour faire la même chose, c'est-à-dire de l'électricité. Parce que le fait qu'elle produit aussi du combustible supplémentaire n'a que peu d'intérêt pendant ce siècle et sans doute pendant une bonne partie du prochain, lorsque le combustible uranium est copieux et pas cher. Donc ça pour dire que le côté financier est un des problèmes majeurs du surgénérateur et de la filière surgénératrice, puisqu'il est difficile de justifier maintenant de construire des réacteurs sensiblement 3 fois plus chers que les réacteurs conventionnels, alors que leur vraie finalité dans le cadre du nucléaire civil se trouve quelque part au siècle prochain, et que leur finalité militaire, si elle existe, n'est certainement pas prioritaire, parce que pour les militaires, d'accord, il serait intéressant d'avoir une espèce de réserve, d'avoir un bonus, d'avoir du plutonium supplémentaire pour rien, mais d'autre part, le fait de l'avoir à partir d'un réacteur dont l'entrée en fonctionnement est retardée d'année en année, depuis plusieurs années déjà, n'est pas ce qui convient le mieux à des militaires qui tiennent à avoir un certain programme d'armement réalisé en un certain nombre d'années.
Alors, voyons voir maintenant ce générateur. Vous m'avez dit, il pose un certain nombre de problèmes au départ. Il y a des possibilités énormes, un coût largement important. Et puis, vous m'avez dit qu'on peut faire une comparaison intéressante entre le coût de l'énergie alternative et le coût de l'énergie nucléaire de demain. Alors, comparer le coût de l'énergie alternative d'aujourd'hui avec le nucléaire de demain pose quand même le problème des priorités. Dans deux temps, les priorités actuelles, court terme, moyen terme éventuellement, et les priorités à long terme. Alors, à court terme, il y a justement, entre autres, Grémalville, qui devrait normalement rentrer en fonction prochainement.
Bon, Grémalville, à court terme, devait être le premier prototype industriel d'une série qui était censée résoudre un problème à moyen terme de la future pénurie d'uranium 235 et qui se trouve maintenant être un problème à long terme. Donc on se retrouve en face d'une grosse difficulté de politique financière, développement, etc. Qui néanmoins a le mérite de nous montrer que le nucléaire de demain risque d'être nettement plus cher que le nucléaire d'aujourd'hui et qui pose le problème quand on dit que les énergies alternatives ne sont pas tout à fait compétitives, il ne faudrait peut-être pas les comparer uniquement avec des solutions plus ou moins transitoires, dont les solutions à plus long, dont les succès d'années à plus long terme seront nettement d'un facteur plus cher. D'autre part, ce qui frappe dans ce contexte, c'est que les Américains ont abandonné, il semble, définitivement l'option surgénératrice, malgré quelques efforts de dernière, quelques combats d'arrière-garde du président Reagan.
Alors à ce sujet, la France a mis donc une priorité actuellement sur l'indépendance vis-à-vis du pétrole, notamment le Moyen-Orient, et aussi une priorité sur l'économie d'énergie. Alors, qu'est-ce que cela signifie-t-il ?
C'est la double priorité qui est toujours avancée pour justifier, d'une part, le très gros programme nucléaire français, qui est le seul qui a survécu aux années 70 presque intact, et d'autre part, une politique d'économie d'énergie et accessoirement d'énergie alternative qui est actuellement en France loin d'être négligeable. Ces deux volets d'une même politique sont intéressants. Ce qui me paraît personnellement intéressant, c'est que en France, il y a une espèce de concurrence, il me semble qu'il y a une espèce de concurrence à armes très inégales entre deux technologies et accessoirement entre deux philosophies, alors que je suis frappé par la façon beaucoup plus pragmatique dont aux États-Unis ces problèmes conduisent, sont abordés et conduisent à des solutions qui paraissent beaucoup plus souples.
Alors en clair, EDF finance l'énergie nucléaire en France et puis finalement le particulier, les économies d'énergie.
C'était l'idée qui est actuellement un tout petit peu tempérée par l'existence de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie qui fait beaucoup pour arrondir les angles, notamment du côté financier. Néanmoins, il me semble que la dichotomie qui veut qu'un gros organisme d'État, qu'est l'EDF, et pas l'AFME encore, ait pour vocation de construire de grosses centrales, alors que les petites choses sont laissées aux particuliers, éventuellement avec l'aide d'une agence un tout petit peu de second plan. Alors que ce qui se passe à ce stade-là aux États-Unis, quelles sont les similitudes et les différences par rapport au système, je dirais pas seulement français, mais européen en général. Dans tous les pays d'Europe, on trouve les mêmes réflexes.
Parce qu'il y a une sorte d'absurdité économiquement, en quelque sorte.
Qui n'est pas perçue comme telle en Europe, mais qui l'est aux États-Unis, où les utilities, les producteurs et distributeurs d'énergie, électricité, gaz, mettons, sont privés, fonctionnent avec des capitaux privés, mais ont la même obligation constitutionnelle comme leurs équivalents en Europe de toujours savoir faire face à la demande. Et là-bas, ayant le dollar pour critère presque seul ou en tout cas principal, ils se sont aperçus il y a de nombreuses années déjà que la construction de grosses centrales devenait de plus en plus aléatoire, de plus en plus risqué au stade financier, même des centrales pas nucléaires, et qu'à un moment donné, il devenait plus rentable, au lieu de construire une méga centrale dont on ne savait pas si elle marcherait dans 10 ans ou dans 12 ans, ou si elle ne marchait jamais, avec l'immobilisation de capitaux que ça présupposait, s'il n'était pas plus rentable de construire à la place de ça 100 000 micro-centrales chez 100 000 particuliers et pour commencer chez 100 000 clients de ses propres fournisseurs qui, avec un centième de millième des frais à l'origine prévus pour la grosse centrale, peuvent chacun se rendre un peu plus indépendant des fournitures d'électricité ou de gaz, et donc non pas augmenter l'offre, mais diminuer les besoins. Donc l'exigence constitutionnelle est toujours satisfaite. Elle est satisfaite par un tas de gens qui ont un certain intérêt à ce que ça fonctionne et qui font des choses qui fonctionnent dans les 6 mois qui viennent. Donc, immobilisation des capitaux plus brève et qui a comme corollaire qu'on a une transition graduelle et soumise même aux lois du marché vers une civilisation un peu qui regarde un petit peu plus les dépenses en énergie, parce qu'on s'est aperçu que l'énergie n'est pas gratuite comme on croyait il y a 20 ou peut-être encore 10 ans. Et cette transition est faite d'une façon tout à fait graduelle, et c'est les mêmes grosses organisations, les mêmes grosses utilities qui se transforment très graduellement de producteurs d'électricité et propriétaire de très grandes centrales en institut bancaire qui finance au ras de terre l'indépendance énergétique des citoyens clients.
Yeah. Kelle hilal kaçtım dizim üstüne Leylim'le. Ay bir yandan sen bir yandan sar beni Leylim'le.